Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais, bien chers frères, il est évident que je vais vous faire un sermon en rapport avec la fête de la Toussaint, cette belle et grande et solennelle fête. Je l'inclurai dans la série des sermons sur la lutte entre les deux cités. Toute l'histoire de l'Église, toute l'histoire de l'humanité est une histoire de lutte, je vous l'ai dit, entre ceux qui préfèrent Dieu à eux-mêmes et ceux qui se préfèrent eux-mêmes à Dieu. Évidemment, pour toutes ces luttes, Dieu a suscité à chaque fois des saints en grand nombre pour accomplir la grande œuvre qu'il voulait faire et pour battre le démon. Des saints qui combattent toujours avec les armes de Dieu, et à chaque fois c'est une défaite cuisante pour le démon, notamment à cause de l'humilité qui vainc son orgueil, la fidélité, etc. Je vais vous prendre quelques exemples de saints pour les grandes époques de l'histoire de l'humanité en rapport avec notre époque à nous, avec les difficultés que nous rencontrons, de façon à ce que les saints que Dieu a suscités à ces époques-là, qui sont assez semblables aux nôtres, ces saints soient pour vous des modèles, d'une part, et puis je l'espère qu'ils deviennent vos amis, que vous les invoquiez, eux plus que d'autres, parce que justement, ils sont plus en rapport avec les nécessités dans lesquelles vous êtes. Je commencerai par Abraham. Abraham, qui est le père des croyants, qui est vraiment au-dessus de beaucoup de saints, l'humanité était plongée dans l'idolâtrie. Même le père d'Abraham, qui pourtant lui avait transmis la foi, finit lui aussi par tomber dans l'idolâtrie. Bien sûr, la foi ne s'éteignit jamais, c'est-à-dire que Abraham releva le flambeau que son père lui avait transmis et que son père avait abandonné lui-même. C'est une époque de grand développement matériel. On voit très bien qu'à cette époque, le développement des sciences est d'autant plus important que les hommes oublient Dieu et par conséquent ne pensent plus qu'à ça. Comme disait notre professeur de morale, les gens d'aujourd'hui ne pensent qu'à faire des ordinateurs et des progrès dans les sciences et dans la matière. Il ne faut pas s'étonner effectivement qu'il n'y ait que ça qui compte aujourd'hui. En effet, dès que l'homme est tombé dans l'orgueil, il tombe dans le désir des biens matériels. Et Saint Ignace dit même que il va à l'orgueil par le désir des biens matériels. On connaît assez bien cette période de l'histoire de l'humanité, parce qu'on a gardé beaucoup de tablettes d'argile, parce qu'il y a beaucoup de sources archéologiques, et cette période était, d'un point de vue matériel, très développée. Il y avait à Marie un canal de 70 km de long qui doublait le fleuve de l'Euphrate pour assurer la circulation fluviale toute l'année. On s'est demandé pourquoi il y avait ce canal et on a découvert que c'était la raison. Faire un canal, cela suppose de grandes connaissances dans beaucoup de domaines, des connaissances de culture, et puis on avait des villes, beaucoup de villes. Que dit Dieu? Il choisit Abraham et il dit à Abraham, quitte ton pays et marche en ma présence. Autrement dit, la richesse des hommes ne m'impressionne pas, la puissance des hommes ne m'impressionne pas, et puisque j'ai décidé de sauver la foi, je ne vais pas la sauver en te demandant d'utiliser cette richesse parce que je la méprise. Je ne te demande qu'une chose, quitte ton pays et marche en ma présence. Et de fait, Abraham ne possédera rien que des troupeaux, il n'aura aucune terre, aucune maison, il possédera simplement le tombeau de son épouse Sarah, dans lequel il sera lui-même enterré. Abraham est également le père des croyants par le sacrifice d'Isaac, que vous connaissez. Isaac était le fils de la promesse. Dieu ne demande pas à Abraham seulement de sacrifier son fils bien-aimé, ce qui est évidemment une annonce du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Il demande de sacrifier le fils de la promesse, c'est-à-dire qu'il met non seulement l'amour paternel à l'épreuve, mais surtout la foi d'Abraham. Parce que Dieu avait promis que Isaac serait à son tour le père des croyants. Et donc Abraham n'a pas posé de question à Dieu, est-ce qu'il a cru avec foi que Dieu ressusciterait Isaac, ou peut-être plus simplement que c'était l'affaire de Dieu de voir comment il accomplirait sa promesse, toujours est-il qu'il sacrifie son fils Isaac, et qu'évidemment un ange lui arrête le bras au moment suprême. Il faut d'ailleurs admirer Isaac, qui s'est laissé faire alors qu'il était jeune et qu'il aurait pu s'enfuir, courir, que sais-je. Et c'est lui qui porte le bois du sacrifice et il demande à son père, « Nous avons le bois, mais où est la victime, père ?» Et Abraham répond, tandis qu'il monte sur la montagne pour le sacrifice, Abraham répond, « Ne t'inquiète pas, mon fils, Dieu y pourvoira. » Mais à ce moment-là, Abraham était persuadé que c'était Isaac qui devait être sacrifié. Je saute évidemment des siècles et des siècles parce que je veux vous montrer simplement quelques exemples. J'arrive au début de l'histoire de l'Église. Ce sont les persécutions qui vont quand même durer presque 3 siècles de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle commence en 30 et elle se termine avec l'édit de Milan en 313. Alors là, c'est très beau, c'est magnifique. Vous avez des martyrs, des martyrs et des martyrs. Il est quasi impossible d'en faire toute la liste. Je pourrais vous citer au hasard Saint Laurent, Saint Maurice d'Agone, Saint Sébastien, percé de flèches, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir d'une part que Dieu suscite des martyrs, et je vais vous montrer quels sont les qualités qu'il leur donne, quelles sont les qualités que vous devez avoir, vous, aujourd'hui, à notre époque de persécution. Et puis, il faut remarquer que la persécution engendre des martyrs, engendre des saints. Bienheureuse époque des persécutions de l'Église qui fait des saints et des saints en grand nombre. Les qualités de ces martyrs, leur foi, bien entendu, c'est une évidence, leur fermeté, sont des gens qui ne discutent pas. Très souvent, ils répondent au préfet, il y a un dialogue dans lequel ils rendent raison de leur foi, ils exposent leur foi, mais ils ne discutent pas au sens moderne, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas un accord. Ils affirment, et souvent même, ils provoquent. Ils provoquent en affirmant leur foi face aux préfets, aux persécuteurs, qui eux croient aux idoles. Donc je disais leur foi, leur fermeté, leur apostolat. L'apostolat des martyrs est quelque chose d'extraordinaire. Souvent d'ailleurs, c'est leur apostolat qui sera la cause de leur martyre. Parce que la règle était qu'on ne recherchait pas les chrétiens, mais que s'ils étaient dénoncés, on devait les obliger à apostasier, sinon c'était la mort. Et cela aussi est une belle leçon pour nous. Parce que cela montre qu'il faut ne pas craindre, ne pas se cacher. Il faut continuer l'apostolat, quitte à être dénoncé. Évidemment, ça aurait été facile de ne pas faire d'apostolat, de ne pas se faire remarquer, comme cela, sans rien dire, moyennant quoi on passait entre les gouttes. Enfin, pas toujours, mais assez souvent. Eh bien non. Un grand nombre de martyrs, au contraire, se montre pour faire de l'apostolat, par fidélité à Jésus-Christ. Et enfin, je pense qu'il faut remarquer le grand nombre de martyrs de la virginité et de la chasteté. Je pense que c'est assez lié, que ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que le bon Dieu a suscité des grands martyrs de la virginité et de la chasteté, parce que ce sont des gens qui sont consacrés à Dieu et qui sont martyrs par fidélité à leur consécration. Le plus célèbre de ces martyrs, c'est Sainte Cécile, qui, très jeune, a voué sa vie à Dieu. Elle est mariée de force. Alors souvent, les jeunes filles comme cela refusaient le mariage. Elles en ont le pouvoir. Elles refusaient le mariage et c'était la cause de leur persécution et de leur mise à mort. Là, Sainte Cécile, inspirée par Dieu, accepte le mariage, mais elle prie énormément avant le mariage et le Saint-Esprit lui inspire d'accepter. Et le soir des noces, elle dit à son mari, Valérien, ne me touche pas, parce qu'un ange me protège, et si tu me touchais, tu perdrais ta jeunesse. Vous allez me dire, mais ce n'est pas juste. Si, parce qu'elle était inspirée de Dieu, et elle lui promet. Elle lui promet que s'il ne la touche pas, il se convertira et il aura un royaume, une joie supérieure à tout ce qu'il pouvait espérer. Alors à ce moment-là, son mari demande à voir l'ange gardien qui la protège. Il voit l'ange, il se convertit. Le beau-frère Tiburce se convertit également, et les deux frères seront martyrisés avant Sainte Cécile. Tiburce craint la mort. Sainte Cécile, sa belle-sœur, lui répond, si cette vie était la seule, ce serait avec raison que nous craindrions de la perdre. Mais il y en a une autre qui n'est jamais perdue, et que le Fils de Dieu nous a fait connaître. Toutes les choses qui ont été faites, c'est le Fils engendré du Père qui les a produites. Tout ce qui a été créé, pardon, tout ce qui est créé, c'est l'Esprit qui procède du Père qui l'a animé. Or, c'est ce Fils de Dieu qui, en venant dans le monde, nous a démontré par ses paroles et par ses miracles qu'il y a une autre vie. Lorsque Tiburce sera devant le préfet lui posera cette question que vous entendrez très souvent, mes bien chers frères, qui est tout à fait d'actualité. Donc, tout l'univers est dans l'erreur, puisque Tiburce lui dit, il y a un seul Dieu que tu ne connais pas, et vos dieux, Jupiter et tout cela, ce sont rien, ce ne sont que des homicides. Le préfet dit donc, tout l'univers est dans l'erreur, il n'y a que ton frère et toi qui connaissiez le vrai Dieu. Cette question du préfet n'inquiète absolument pas Tiburce. Elle sera posée très souvent cette question à Monseigneur Lefebvre. Comment pouvez-vous dire que vous avez raison alors que vous êtes seul? Et Monseigneur répond à chaque fois, d'abord, même si j'étais seul, en quoi cela me donnerait-il tort? Ça, c'est l'exemple d'Abraham, même seul, du moment que j'ai la foi, je suis avec Dieu et j'ai raison. Et Monseigneur répondait, comme Tiburce, nous ne sommes pas les seuls. Et Monseigneur ajoutait, non seulement nous ne sommes pas seuls, mais nous avons avec nous tous les saints de l'histoire de l'Église. Et on pourrait même ajouter que ce sont les novateurs qui sont seuls. Vous comptez, vous avez quoi, Jean 23, Paul 6, enfin vous avez 5-6 papes modernes qui sont tout seuls contre 260 ou 65, 260 papes qui les ont précédés et qui sont tous des papes fidèles à la foi de, quasiment tous, fidèles à la foi de Jésus-Christ. En martyr de la virginité, vous avez Sainte Agnès qui, elle, refuse carrément le mariage. Je saute encore quelques siècles, parce que je ne vais pas vous parler de Charlemagne, vous n'êtes pas empereur. C'est pour ça que je ne vais pas non plus vous parler de Saint-Louis, parce que vous n'êtes pas roi. Et puis on ne vous demande pas de faire une croisade. Ce n'est pas ce que Dieu attend de vous. Par contre, je vais vous parler de Saint-François d'Assise. Saint-François d'Assise vient à l'époque qui est la naissance du capitalisme. Oh, je sais bien, par rapport au capitalisme d'aujourd'hui, c'est peu de choses. Mais enfin, c'est la naissance du capitalisme parce que c'est pour les premières fois qu'on, premièrement, on vend le travail d'autrui au lieu de vendre son propre travail, le fruit de son travail, et puis surtout qu'on fait des longues courses pour acheter et revendre très cher des produits qui ne servent à rien. C'était le début de la route des épices, et puis c'était le début de la banque. Et évidemment, pour financer ces choses-là, alors on crée de l'argent, etc. Acheter des choses qui ne servent à rien, c'est la définition du luxe. Parce que l'argent qui a été consacré à ce qui ne sert à rien aurait dû être utilisé à soulager les pauvres, ou à construire la chrétienté, construire des églises, ou étendre la chrétienté, etc., ou partir en croisade, hein, tout simplement. La réponse de saint François d'Assise, plutôt de Dieu par saint François d'Assise, c'est la pauvreté absolue. Je n'ai pas dit l'esprit de pauvreté. Dans certains cas, l'esprit de pauvreté peut suffire. Saint Louis avait l'esprit de pauvreté. Mais saint François d'Assise, c'est la pauvreté absolue. Mais bien, chers frères, c'est une des prédications de saint Ignace, et j'y viendrai également à saint Ignace, une des prédications de saint Ignace, l'argent fait tomber, c'est la pauvreté qui est la réponse. De même que à l'époque des persécutions, c'était la virginité, la chasteté, qui étaient les vertus qui renforçaient la foi, parce que ce sont elles qui consacrent à Dieu dans un monde qui est impur. De même aujourd'hui, bien sûr la chasteté compte énormément, je ne vais pas vous dire le contraire, mais elle est souillée, je pense, d'abord par l'argent. Et c'est d'abord la pauvreté qu'il faut rechercher. Je saute encore quelques siècles et j'arrive à saint Ignace et saint Louis-Marie de Grignon de Montfort. Vous allez me dire, ce n'est pas la même période. Effectivement, il y a un siècle entre les deux. Mais tous les deux sont des saints de la consécration à Dieu. Saint Ignace, c'est la consécration au Saint-Esprit par Jésus-Christ. Oui, je sais, c'est peut-être pas comme ça que vous l'envisagez. Et pourtant, un excellent auteur comme le père Charmeau, qui était jésuite, a une très bonne analyse de la spiritualité de saint Ignace. Saint Ignace fait aller vraiment au fond des choses, à la consécration à l'Esprit-Saint. Saint Ignace, par son discernement des esprits, donne vraiment une grande union à l'Esprit-Saint. La recherche, et ça c'est très important, parce qu'aujourd'hui, mes bien chers frères, vous allez être seuls. Vous ne pourrez pas compter sur les prêtres comme autrefois, vous ne pourrez même plus compter sur les évêques comme autrefois. Je ne dis pas que vous n'avez pas Mgr Williamson, que vous n'avez pas Mgr Faure et Mgr Zanderas et Mgr Thomas d'Aquin et d'autres évidemment, parce que ils ne resteront pas seuls. Mais on ne peut pas tout leur demander, c'est pas eux qui vous diront comment vous devez mener le détail de votre vie, n'est-ce pas? Et puis c'est à vous de les choisir. C'est à vous d'être inspiré par l'Esprit-Saint pour savoir quels évêques vous suivez, à quels évêques vous faites confiance, et quand ces évêques-là auront disparu, parce que personne n'est éternel, à quels évêques vous transférerez votre confiance. La fidélité au Saint-Esprit, l'union au Saint-Esprit, c'est également ce qui me frappe beaucoup chez Mgr Lefebvre. Mgr Lefebvre nous a prêché une religion qui est tout sauf une religion de structure, d'institution, qui est une religion d'union profonde au Saint-Esprit. Et de la même manière que saint Ignace, union au Saint-Esprit par Jésus-Christ. Quand je serai remonté, dit notre Seigneur, monté auprès du Père, je vous enverrai mon esprit. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort vient compléter l'enseignement de saint Ignace, parce que par Marie, on se consacre à Jésus-Christ la sagesse éternelle, et par la consécration à Jésus-Christ la sagesse éternelle, on se consacre au Saint-Esprit. Et puis je terminerai par Mgr Lefebvre, qui évidemment n'est pas canonisé, et que je me garderai bien de canoniser, c'est pas à moi de le faire, mais qui est vraiment, alors on peut le dire, une lumière pour notre époque. Tiens, je vais vous rappeler, oui, je sais, on en est déjà à 20 minutes, mais je sais que vous m'écoutez. Le séminaire était une période troublée, très troublée. J'ai connu au séminaire une série de défections, de crises, de ruptures. Ça m'ennuyait, évidemment, et donc j'avais repéré parmi les prêtres qu'on appelle les directeurs de conscience, c'est-à-dire ceux qui forment notre conscience pour devenir des bons prêtres, qui sont en même temps nos confesseurs, j'avais remarqué le bon père Bariel. Mon critère était très simple, les séminaristes dont le père Bariel prenait soin étaient des séminaristes fidèles. Je n'accuse pas les autres prêtres, mais les séminaristes qui s'en allaient n'étaient pas souvent les séminaristes dirigés par le père Bariel. Or, je viens trouver le bon père Bariel dans son bureau, et je lui dis, voilà mon père, j'aimerais que vous vous occupiez de moi, de me former. Ah, il me dit, as-tu confiance dans Monseigneur Lefebvre ? Et il nous tutoyait, c'était son privilège. Il était le seul à avoir le droit de nous tutoyer. Je lui dis, oui, bien sûr. Non ! Ce n'est pas comme ça qu'on répond. Es-tu persuadé que Monseigneur Lefebvre est un homme suscité par Dieu pour nous guider aujourd'hui ? Oh, je dis, oui, bien sûr, mon père, j'en suis persuadé. Non, ce n'est pas comme ça qu'on répond. As-tu absolument persuadé que Monseigneur Lefebvre a été suscité par Dieu pour sauver l'Église aujourd'hui ? Et je lui réponds, mais oui, mon père, c'est pour ça que je suis venu vous trouver. À ce moment-là, il se renverse sur son siège et il me dit, ah, petit, tu me fais plaisir. Rien que cela me montrait que je ne m'étais pas trompé en choisissant le bon père Bariel, à qui je dois tant et à qui vous devez tant, donc vous, par conséquent. Monseigneur Lefebvre, c'est la primauté de la foi. La foi est au-dessus de tout. Le pape, oui, très bien, il y a des problèmes, nous verrons plus tard. Ce qui est absolument certain, c'est que le pape est au service de la foi et qu'il ne peut pas la changer. Monseigneur Lefebvre, c'est la royauté du Christ. Mais cette royauté dont je vous ai parlé hier, qui est contre le système démocratique, en démocratie, il faut être plusieurs pour avoir raison, nombreux pour avoir raison. Monseigneur Lefebvre, nous sommes seuls. Nous avons un roi, nous sommes seuls. Peu importe que nous soyons seuls, nous suivons notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre roi. Et puis, Monseigneur Lefebvre, c'est la royauté du Christ par le sacrifice eucharistique, qui a été très mal compris. Je veux dire l'enseignement de Monseigneur. On a cru que c'était la fidélité au rite de la messe. Bien sûr qu'il faut être fidèle au rite, bien entendu. Surtout que le rite de Paul VI est un rite de franc-maçon, de protestant franc-maçon. Mais au-delà, Monseigneur Lefebvre nous demandait d'être fidèle au sacrifice eucharistique, et d'aller même plus loin que le sacrement, d'aller, comme je vous l'ai déjà expliqué, jusqu'à la réalité du sacrement, c'est-à-dire à la consécration, à l'immolation. C'est un sacrifice d'holocauste. Et Monseigneur Lefebvre nous a demandé de nous sacrifier, c'est-à-dire d'être des holocaustes pour le salut des âmes, pour la gloire de Dieu, des holocaustes qui, avec le Christ, s'offrent à Dieu le Père. Évidemment, un tel sacrifice ne peut être inspiré que par le Saint-Esprit. Et donc, je suis persuadé que Monseigneur Lefebvre, c'est aussi vraiment l'union au Saint-Esprit. Autant dans les premières persécutions de l'Église, ces persécutions étaient violentes, terribles, mais l'Église était forte. Les chrétiens s'appuyaient beaucoup les uns sur les autres, beaucoup sur le clergé, beaucoup sur le pape, qui était l'évêque de Rome. Il y avait une force à l'intérieur de la communauté chrétienne. Aujourd'hui, tout cela a disparu. Il n'y a plus cette force d'appui dans la communauté chrétienne. Et voilà pourquoi le bon Dieu a suscité un homme comme Monseigneur Lefebvre qui nous apporte la réponse pour notre époque. Que tous les saints intercèdent pour vous. Faites-vous des amis de tous ces saints. Lisez leur vie. Donnez à vos enfants la vie du curé d'Ars pour susciter des vocations. Donnez à vos enfants, garçons et filles, des vies de saints qui se sont totalement consacrés à Dieu pour susciter des vocations religieuses, pour susciter des martyrs, pour susciter des pères de famille qui tiendront et qui feront tenir leur famille. Que Dieu vous bénisse, mes bien chers frères, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.